Voltaire, dictionnaire philosophique, article Amour socratique. Si l'amour qu'on a nommé socratique et platonique n'était qu'un sentiment honnête, il y faut applaudir. Si c'était une débauche, il faut en rougir pour la Grèce. Comment s'est-il pu faire qu'un vice destructeur du genre humain, s'il était général, qu'un attentat infâme contre la nature, soit pourtant si naturel? Il paraît être le dernier degré de la corruption réfléchie, et cependant il y a le partage ordinaire de ceux qui n'ont pas encore eu le temps d'être corrompus. Il est entré dans des cœurs tout neufs, qui n'ont connu encore ni l'ambition, ni la fraude, ni la soif des richesses. C'est la jeunesse aveugle qui, par un instinct mal démêlé, se précipite dans ce désordre au sortir de l'enfance, ainsi que dans l'onanisme. Le penchant des deux sexes l'un pour l'autre se déclare de bonne heure. Mais, quoi qu'on ait dit des Africaines et des femmes de l'Asie méridionale, ce penchant est généralement beaucoup plus fort dans l'homme que dans la femme. C'est une loi que la nature a établie pour tous les animaux. C'est toujours le mâle qui attaque la femelle. Les jeunes mâles de notre espèce, élevés ensemble, sentant cette force que la nature commence à déployer en eux, et ne trouvant point l'objet naturel de leur instinct, se rejettent sur ce qui lui ressemble. Souvent, un jeune garçon, par la fraîcheur de son teint, par l'éclat de ses couleurs et par la douceur de ses yeux, ressemble pendant 2 ou 3 ans à une belle fille. Si on l'aime, c'est parce que la nature se méprend. On rend hommage au sexe en s'attachant à ce qu'on a, ce qu'il a dans les beautés. Quand l'âge a fait évacuer cette ressemblance, la méprise cesse. Quitra que juventam aetatis breve veret primos carpere flores, Ovid. On n'ignore pas que cette méprise de la nature est beaucoup plus commune dans les climats doux que dans les glaces du septentrion, parce que le sang n'y est plus allumé, et l'occasion plus fréquente. Aussi, ce qui ne paraît qu'une faiblesse dans le jeune Alcibiade est une abomination dégoûtante dans un matelot hollandais et dans un vivandier moscovite. Je ne puis souffrir qu'on prétende que les Grecs ont autorisé cette licence. On cite le législateur Solon parce qu'il a dit en 2 mauvais vers « Tu chériras un beau garçon tant qu'il n'aura barbe au menton. » Mais en bonne foi, Solon était-il législateur quand il fit ces 2 vers ridicules? Il était jeune alors, et quand la débauche fut devenue sage, il me mit point une telle infamie parmi les lois de sa République. Accusera-t-on Théodore de Bèze d'avoir prêché la pédérastie dans son église, parce que dans sa jeunesse il fit des vers pour le jeune Candide et qu'il dit « Amplectorunc et illam »« Je suis pour lui, je suis pour elle ». Il faudra dire qu'ayant chanté des amours honteux dans son jeune âge, il eut dans l'âge mûr l'ambition d'être chef de parti, de prêcher la réforme, de se faire un nom. Hic vir et ille puer. On abuse du texte de Plutarque qui, dans ses bavarderies au dialogue de l'amour, fait dire à un interlocuteur que les femmes ne sont pas dignes du véritable amour. Mais un autre interlocuteur soutient le parti des femmes comme il le doit. On a pris l'objection pour la décision. Il est certain, autant que la science de l'Antiquité peut l'être, que l'amour socratique n'était point un amour infâme. C'est ce nom d'amour qui a trompé. Ce qu'on appelait les amants d'un jeune homme était précisément ce que sont parmi nous les menins de nos princes, ce qu'étaient les enfants d'honneur, des jeunes gens attachés à l'éducation d'un enfant distingué, partageant les mêmes études, les mêmes travaux militaires, institutions guerrières et saintes dont on abusa, comme des fêtes nocturnes et des orgies. La troupe des amants instituée par Laïus était une troupe invincible, de jeunes guerriers engagés par serment à donner leur vie les uns pour les autres. Et c'est ce que la discipline antique a jamais eu du plus beau. Sextus Empiricus et d'autres ont beau dire que ce vice était recommandé par les lois de la Perse, qu'ils citent le texte de la loi, qu'ils montrent le code des Psersans. Et si cette abomination s'y trouvait, je ne la croirais pas. Je dirais que la chose n'est pas vraie, par la raison qu'elle est impossible. Non, il n'est pas dans la nature humaine de faire une loi qui contredit et qui outrage la nature. Une loi qui anéantirait le genre humain, s'il était observé à la lettre. Mais moi, je vous montrerai l'ancienne loi des Persans, rédigée dans le Sadder. Il est dit à l'article ou porte d'œuf qu'il n'y a point de plus grand péché. C'est en vain qu'un écrivain moderne a voulu justifier Sextus Empiricus et la pédérastie. Les lois de Zoroastre, qui ne connaissaient pas, sont un témoignage irréprochable que ce vice ne fut jamais recommandé par les Perses. C'est comme si on disait qu'il est recommandé par les Turcs. Ils le commettent hardiment, mais les lois le punissent. Que de gens ont pris des usages honteux et tolérés dans un pays pour les hautes lois du pays. Sextus Empiricus, qui doutait de tout, devait bien douter de cette jurisprudence. S'il eût vécu de nos jours et qu'il eût vu deux ou trois jeunes jésuites abuser de quelques écoliers, aurait-il eu le droit de dire que ce jeu leur est permis par les constitutions d'Ignace de Loyola? Il me sera permis de parler ici de l'amour socratique du révérend père Polycarpe, carme chaussé de la petite ville de Gex, lequel en 1771 enseignait la religion et le latin à une douzaine de petits écoliers. Il était à la fois leur confesseur et leur régent, et il se donna auprès d'eux tous un nouvel emploi. On ne pouvait guère avoir plus d'occupations spirituelles et temporelles. Tout fut découvert, il se retira en Suisse, pays fort éloigné de la Grèce. Ses amusements étaient assez communs entre les précepteurs et les écoliers. Les moines, chargés d'élever la jeunesse, ont été toujours un peu adonnés à la pédérastie. C'est la suite nécessaire du célibat auquel ces pauvres gens sont condamnés. Les seigneurs turcs et persans font, à ce qu'on nous dit, élever leurs enfants par des eunuques. Étrange alternative pour un pédagogue, d'être châtré ou sodomite. L'amour des garçons était si commun à Rome qu'on ne s'avisait pas de punir cette turpitude, dans laquelle presque tout le monde donnait tête baissée. Octave Auguste, meurtrier débauché, poltron, qui osa exiler Ovide, trouva très beau que Virgile chantât Alexis. Horace, son autre favori, faisait de petites odes pour Ligurinus. Horace, qui louait Auguste d'avoir réformé les mœurs, proposait également dans ses satires un garçon et une fille. Mais l'ancienne loi Scantinia, qui défend la pédérastie, subsista toujours. L'empereur Philippe la remit en vigueur et chassa de Rome les petits garçons qui faisaient le métier. S'il y eut des écoliers spirituels et licencieux comme Pétrone, Rome eut des professeurs tels que Quintilien. Voyez quelle précaution il apporte dans le chapitre du précepteur pour conserver la pureté de la première jeunesse. Cauendum non solum crimine turpitudinis, sed etiam suspicione. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait eu aucune nation policée qui ait fait des lois contre les mœurs.